Exercice 2. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez.
Les villes françaises ont perdu en densité humaine depuis un mois. De nombreux citadins ont préféré aller vivre leur confinement dans des zones moins peuplées. Une mise au vert qui part du principe, somme toute logique, que quitte à être coincé quelque part, autant avoir de la place pour respirer. Cet exode, ajouté à la désertion des espaces publics par ceux qui sont restés, a eu pour effet d'encourager les animaux et les plantes à s'y exprimer comme jamais, preuve que le milieu urbain est capable d'accueillir et de faire vivre la biodiversité. La nature n'est pas réservée aux seuls champs de la campagne. En parlant de campagne justement, celle des municipales avait mis l'accent sur la végétalisation des villes. C'était à qui promettrait de planter le plus grand nombre d'arbres. Souvenez-vous de cet ancien candidat à la mairie de Paris qui voulait créer une sorte de Central Park en lieu et place de la gare de l'Est, ce qui lui avait valu déjà bien des moqueries. On ne sait pas encore quand précisément sera reporté le scrutin, mais le mois d'octobre a été évoqué par le Premier ministre, autrement dit après l'été, c'est-à-dire après la période la plus chaude de l'année, avec son lot désormais rituel d'épisodes caniculaires. Cette question des poumons verts dans les métropoles devrait donc encore être très présente dans le débat politique local, dans la mesure où la végétalisation fait partie des moyens identifiés pour lutter contre ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. Le végétal a un effet rafraîchissant, en plus de capter le carbone. Mais voilà que le coronavirus vient perturber cette idée selon laquelle le verdissement des villes serait une solution immédiatement prête à l'emploi et qu'il suffirait de planter, d'imiter la nature pour se prémunir des dérèglements environnementaux. C'est ce qui ressort d'une tribune assez perturbante que viennent de signer, dont le journal Le Monde, le maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromentin, et l'épidémiologiste Didier Sicard, dont vous avez peut-être lu l'interview, remarquable et remarquée, la semaine dernière sur le site de France Culture. Leur tribune part du constat, d'une part que le processus d'urbanisation s'accélère, d'autre part qu'il crée chez les urbains une envie de nature. Or, écrivent-ils, mettre la nature en ville est une promesse dangereuse, car métropolisation et envie de nature risquent d'accélérer les déflagrations écologiques. Selon eux, le risque est de reproduire en ville des environnements naturels dont nous sommes friands, d'y multiplier les expériences exotiques, ou de céder trop vite aux sirènes du verdissement sans mesurer les dérèglements que cela pourrait avoir. Alors je dois dire qu'en lisant ce texte hier matin, j'ai d'abord été interloqué, d'autant que la photo qu'il illustre est celle d'un petit jardin collectif au milieu des immeubles à Paris, dans le 13e arrondissement. Alors certes, l'urbanisation a contribué à la propagation du Covid-19, mais comme le note un internaute sur Twitter, on peut planter des fleurs en ville, installer des potagers et des jardins sur les toits sans forcément faire frire des pangolins. Alors certains verront peut-être dans ce texte une façon détournée de défendre la bétonisation. Et pour ma part, si j'ai choisi de vous en parler ce matin, c'est parce que derrière la provocation, volontaire ou pas, il nous rappelle deux notions essentielles. D'abord que les idées les plus séduisantes a priori s'avèrent souvent être de fausses bonnes idées et que par conséquent, il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de se lancer dans un projet si l'on n'est pas capable d'en maîtriser les effets. Cela vaut pour le verdissement des villes, comme pour la transition écologique, et comme pour tout en fait.